France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Martine Moni, Emmanuel Benito, Sofiane Aktib, Youtou Diego Ac Lopez et Olivier Deshaies. Voici la troisième émission de notre série consacrée à Igor Stravinsky et la voix des œuvres vocales du maître décédé il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous évoquerons l'entre-deux-guerres et les années 1940, une période marquée par un renouveau spirituel pour Igor Stravinsky, qui revient au christianisme orthodoxe de son enfance, une foi dont il s'était éloigné et qu'il exprime notamment dans sa symphonie de psaumes qu'on écoutera intégralement aujourd'hui sous la direction de Pierre Boulez, ou encore dans ce Pater Noster de 1926. C'est les King's Singers que nous entendions dans ce Pater Noster de 1926 d'Igor Stravinsky, courte partition qui témoigne de ce renouveau de la foi de Stravinsky dans ces années 1920. Ces années qui sont marquées en particulier par la création de Oedipus Rex le 30 mai 1927 à Paris au théâtre Sarah Bernhardt. Une partition qu'Igor Stravinsky compose en partenariat avec Jean Cocteau. Deux ans auparavant, en 1925, Stravinsky avait vu la pièce Antigone de Cocteau, qui s'inspire de Sophocle, et très enthousiasmé, il avait demandé à Cocteau de lui donner un livret. Seulement, il exigeait, Stravinsky, que ce livret fût traduit en latin. Alors, on avait fait appel à Jean Danielou, futur cardinal, pour traduire le livret de Jean Cocteau, qui aurait dû être le speaker, le narrateur de cette grande soirée. Seulement, c'était sans compter sur Diaghilev, qui s'était opposé à ce que Cocteau soit le narrateur, ce qui va beaucoup fâcher Cocteau, d'en plus qu'il va pas recevoir le soutien de Stravinsky comme il aurait pu l'espérer. Les deux hommes ne se retrouveront que bien plus tard, en 1952, pour un enregistrement au Théâtre des Champs-Élysées de ce Oedipus Rex resté célèbre. Il y a beaucoup de narrateurs de ce Oedipus Rex. J'en ai choisi un en particulier qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est Michel Piccoli, dans un enregistrement de 1983 avec le chœur et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Colin Davis. Parmi les solistes, il y a Thomas Moser, Jesse Norman, Zygmunt Nimsgern. Voici donc le prologue et le premier acte de ce Oedipus Rex, Oedipe Roi de 1927, musique Igor Stravinsky, texte Jean Cocteau.
Spectateurs, vous allez entendre une version latine d'Oedipe Roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Oedipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elles lui tendent depuis sa naissance un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Oedipe de sauver sa ville. Édipe a vaincu le sphinx. Il promet. Voici Créon, beau-frère d'Édipe. Il revient de consulter l'oracle. L'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laïus. L'assassin se cache dans Thèbes. Il faut le découvrir coûte que coûte. Édipe se vante de son adresse à deviner les énigmes. Il découvrira et chassera l'assassin.
Sedere, opus vos istus.
type interroge la fontaine de vérité. Tirésias, le devin. Tirésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Édipe est joué par les dieux sans cœur. Ce silence irrite Édipe. Il accuse Créon de vouloir le trône et Tirésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Tirésias se décide. La fontaine parle. Voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi.
Nullum nullum victum canabo. stipendarius est Tiresia, hoc facinus ego solvo. Creo, creo, vult rex vini.
En 1983, Colin Davis dirigeait le chœur et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dans Oedipus Rex d'Igor Stravinsky sur un texte de Jean Cocteau, traduit en latin par Jean Danielou. C'est le prologue et le premier acte que nous entendions avec le ténor Thomas Moser, le baryton Zygmunt Nimsgaard et le récitant Michel Piccoli.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
J'ai été profondément impressionné par la symphonie de psaumes. L'élargissement de la fin est grandiose, presque surnaturel. Nul doute que la symphonie de psaumes est un Oedipus Rex réussi. Mais j'aime bien plus Oedipus Rex que les nombreux exercices de style aride que le compositeur russe nous offrait auparavant. C'est à Maurice Ravel que l'on doit ce commentaire sur deux partitions que nous écoutons aujourd'hui dans cette troisième émission sur Igor Stravinsky et la voix, puisqu'après Oedipus Rex, Igor Stravinsky se répond à une commande de Serge Koussevitzky pour le 50e anniversaire de l'Orchestre Symphonique de Boston en écrivant sa célèbre symphonie de psaumes. Le troisième psaume, cet élargissement fin grandiose dont parle Maurice Ravel, eh bien c'est le psaume 150, le psaume de louange. Le psaume central, c'est le 39e, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Et cette partition, créée en 1930, commence par le psaume 38, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Voici intégralement cette symphonie de psaumes telle que Pierre Boulez l'avait dirigée à la tête du chœur de la radio de Berlin et l'orchestre philharmonique de Berlin.
Thank you.
Laudate Dominus, louez le Seigneur avec la trompette, le luth, la harpe, le tambourin, avec des danses, avec des instruments à cordes, avec le chalumeau, les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. Voilà un des textes les plus musicaux de la Bible, le psaume 150, qui conclut la symphonie de psaumes d'Igor Stravinsky, ici interprété par le chœur de la radio de Berlin, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Pierre Boulez.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Quelques mois après la composition de cette symphonie de psaumes, écrite, je vous rappelle, pour les 50 ans de l'orchestre symphonique de Boston, commande de Serge Koussevitzky, Igor Stravinsky plante de nouveau sa plume dans l'encrier religieux avec un credo que voici, nous sommes là en 1932.
Thank you.
Voilà donc un credo, ou plutôt un vieri orthodoxe, mis en musique en 1932 par Stravinsky et ici chanté par le chœur New London ainsi que le chœur de chambre de Voronej dirigé par James Wood. Alors Stravinsky avait passé la Grande Guerre en Suisse, ensuite il s'était installé avec sa famille à Biarritz entre 1921 et 1924. À Nice, entre 1925 et 1930, c'est à Nice qu'il a écrit Oedipus Rex et la Symphonie des Psaumes qu'on écoutait tout à l'heure, et ensuite à Vorep, dans l'Isère, au début des années 30, et c'est là qu'il écrit ce credo qu'on vient d'entendre, ainsi que le mélodrame Perséphone, qu'on va entendre en extrait, après avoir travaillé sur des textes de Charles-Ferdinand Ramu pour l'Histoire du soldat, sur un texte de Cocteau pour Oedipus Rex, Stravinsky se rapproche de nouveau d'un grand écrivain contemporain, c'est André Gide pour Perséphone, partition créée à l'Opéra de Paris en 1934, année où Stravinsky obtient la nationalité française. Perséphone, rappelons-le, c'est la fille de Déméter dans la mythologie grecque, déesse des moissons, et Perséphone deviendra l'épouse du dieu des enfers Hadès. C'est une partition qui est créée avec sur scène Ida Rubinstein, la grande danseuse qui avait commandé à Ravel son boléro. Gide sera mécontent du résultat final, en particulier du résultat visuel, mais il reconnaîtra plus tard apprécier la musique de Stravinsky, que voici donc en extrait, avec Nicolai Guéda dans le rôle du grand prêtre Eumolpe, avec Claude Nollier dans le rôle de Perséphone, le chœur de l'Université de Paris, la maîtrise de la radiodiffusion française et l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé par André Cloyes. Perséphone d'Igor Stravinsky.
Oh. Perséphone à tes vœux s'est rendue. Ta tunique de deuil qu'assombrissait l'hiver a recouvré ses fleurs et sa splendeur perdue. Et vous, nymphes, mes sœurs, votre troupe assidue foule un gazon nouveau sous le bocage vert. Ô mon terrestre époux, laboureur Triptolème, Démophone, déjà le froment que tu sèmes germe, prospère et rit en féconde moisson. Tu n'arrêteras pas le cours de la saison. La nuit succède au jour et l'hiver à l'automne. Je suis à toi, prends-moi, je suis ta Perséphone. Mais bien l'épouse aussi du ténébreux Pluton. Tu ne pourras jamais d'une étreinte si forte me serrer dans tes bras, charmant Démophone, que de l'enlacement je ne m'échappe et sorte en dépit de l'amour et le cœur déchiré pour répondre au destin qui m'appelle. J'irai vers le monde ombrageux où je sais que l'on souffre. Crois-tu qu'impunément se penche sur le gouffre de l'enfer douloureux un cœur ivre d'amour? J'ai vu ce qui se passe et se dérobe au jour, et ne puis t'oublier, vérité désolante. Mercure, que voici, me prendra consentante. Je n'ai pas besoin d'ordre et me rends de plein gré, où non point tant la loi que mon amour me mène. Et je vais pas à pas descendre les degrés qui conduisent au fond de la détresse humaine.
Un extrait de Perséphone d'Igor Stravinsky sur un texte de André Gide créé en 1934 à l'Opéra de Paris et ici interprété par André Kluytens qui dirigeait l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, le chœur de l'Université de Paris, la maîtrise de la radiodiffusion française, Nicolas Guéda ténor, ainsi que la voix de Claude Nollier dans le rôle-titre.
Arabesque, François-Xavier Chemchak. France Musique.
Et en cette même année 1934, Igor Stravinsky compose un Ave Maria que voici interprété par les Gabrieli Consorts dirigés par Paul McCreesh, selon qui, je cite, « les motifs mélodiques restreints, l'écriture formelle, la discipline et les textures homophones montrent que Stravinsky connaissait l'iconographie mariale de l'Orient ». Paul McCreesh à la tête des Gabrieli Consorts dans cette Ave Maria d'Igor Stravinsky composée en 1934, année où il obtient la nationalité française. Stravinsky qui reste en France avec sa famille jusqu'en 1940. Et deux événements dans sa vie vont être marquants, bien sûr le début de la guerre et puis également son remariage avec Vera de Bossé. 1940, c'est la date de son départ pour les États-Unis en Californie. Et pendant 10 ans, de 1934 à 1944, Stravinsky n'écrira que des partitions instrumental, concerto pour deux pianos, jeu de cartes, concerto de Merton Hawkes, la symphonie en ut, les danses concertantes, le tango pour piano, etc. Et il retrouve la voix humaine en écrivant le final d'une partition collective réalisée par des compositeurs européens réfugiés aux États-Unis. Cette partition, c'est la suite de la Genèse, Genesis Suite, dont le prélude est signé Arnold Schoenberg, la partie consacrée à Adam et Ève d'Alexandre Tansman, Caïn et Abel par Darius Milhaud, ou encore Babel, le final, Babel et sa célèbre tour polyglotte par Igor Stravinsky.
And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found the plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city, and a tower, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, scatter them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. City called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth.
C'était Babel, en anglais Babel, d'Igor Stravinsky, contribution à une partition collective de 1944, après appelée la suite de la Genèse. C'est la voix de John Kallikos que nous entendions avec le chœur des chanteurs du Festival de Toronto et l'orchestre symphonique de la CBC, la radio-télévision québécoise. Canadienne, dirigée par Igor Stravinsky lui-même. Voici une dernière partition au programme de cette troisième émission avec une messe écrite entre 1944 et 1948. Une messe que Stravinsky voulait, je cite, avec une musique froide, absolument froide, qui s'adresse directement à l'esprit. Une partition qui a été commentée dans un des Musicopolis d'Anne Charlotte Raymond, que je vous invite à retrouver. C'était le 18 septembre 2020 et ma consoeur écrit à ce sujet, privée de ses droits d'auteur à cause de la Seconde Guerre mondiale qui fait rage. Stravinsky ne vit que de commandes, contrairement à Bartok, mort dans le dénuement. Compositeur parvient à jouer de ses relations pour assurer sa subsistance et il écrit notamment cette messe influencé par les écrits de Jacques Maritain, philosophe catholique, et il revient pour sa musique religieuse à une forme plus artisanale, humble, dénuée d'ornements. Cette courte messe met en valeur le texte et invoque les compositeurs médiévaux et de la Renaissance, principalement Guillaume de Machaut et Lars Nova. Et justement, nous allons écouter un enregistrement de 2016 qui entremêlait Guillaume de Machaut avec les cantigas de Maurice Ohana et cette messe de Stravinsky, enregistrement de l'ensemble La Tempête, dirigé par Simon-Pierre Bestion.
Sanctus,
Voilà un Stravinsky qu'on entend assez rarement. C'était un extrait de la messe composée dans les années 40 avec Claire Le Filiatre, Anna Reinhold, Francisco Manalik, Lisandro Abadi, l'ensemble La Tempête dirigé par Simon-Pierre Bestion. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chomchak. Dites-moi demain, après l'église et la messe, on fait le libertin ?
Ben, on fait le libertin, on fait surtout le passage entre le monde néoclassique et l'écriture sérielle dans les années 50, de l'opéra The Rake's Progress jusqu'à Treni sur les Lamentations de Jérémie. Mais toujours en compagnie de Monsieur Igor.
Eh bien, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.